Lettre 12. À Asa. Elle s'habille à la française et raconte la conduite du capitaine d'Héterville envers elle. J'ai passé bien du temps, mon cher Asa, sans pouvoir donner un moment à ma plus chère occupation. J'ai cependant un grand nombre de choses extraordinaires à t'apprendre. Je profite d'un peu de loisir pour essayer de t'en instruire. Le lendemain de ma visite chez la Palace, D'Héterville me fit apporter un fort bel habillement à l'usage du pays. Après que ma petite China l'eut arrangé sur moi à sa fantaisie, elle me fit approcher de cette ingénieuse machine qui double les objets. Quoique je dusse être accoutumée à ses effets, je ne pus encore me garantir de la surprise en me voyant comme si j'étais vis-à-vis de moi-même. Mon nouvel ajustement ne me déplut pas. Peut-être je regretterais davantage celui que je quitte s'il ne m'avait fait regarder partout avec une attention incommode. Le cacique entra dans ma chambre au moment que la jeune fille ajoutait encore plusieurs bagatelles à ma parure. Il s'arrêta à l'entrée de la porte et nous regarda longuement sans parler. Sa rêverie était si profonde qu'il se détourna pour laisser sortir la China et se remit à sa place sans s'en apercevoir. Les yeux attachés sur moi, il parcourait toute ma personne avec une attention sérieuse dont j'étais embarrassée sans en savoir la raison. Cependant, afin de lui marquer ma reconnaissance pour ses nouveaux bienfaits, je lui tendis la main. Et ne pouvant exprimer mes sentiments, je crus ne pouvoir lui rien dire de plus agréable que quelques-uns des mots qu'il se plaît à me faire répéter. Je tâchai même d'y mettre le ton qu'il donne. Je ne sais quel effet ils firent dans ce moment-là sur lui, mais ses yeux s'animèrent, son visage s'enflamma, il vint à moi d'un air agité, il parut vouloir me prendre dans ses bras, puis s'arrêtant tout à coup, il me serra fortement la main, en prononçant d'une voix émue « Non, le respect, sa vertu » et plusieurs autres mots que je n'entends pas mieux. Puis il courut se jeter sur son siège, à l'autre côté de la chambre, où il demeura, la tête appuyée dans ses mains, avec tous les signes d'une profonde douleur. Je fus alarmée de son état, ne doutant pas que je lui eusse causé quelque peine. Je m'approchai de lui pour lui en témoigner mon repentir, mais il me repoussa doucement sans me regarder et je n'osais plus rien lui dire. J'étais dans le plus grand embarras quand les domestiques entrèrent pour nous apporter à manger. Il se leva. Nous mangeâmes ensemble à la manière accoutumée, sans qu'il parût d'autre suite à sa douleur qu'un peu de tristesse. Mais il n'en avait ni moins de bonté, ni moins de douceur. Tout cela me paraît inconcevable. Je n'osais lever les yeux sur lui, ni me servir des signes qui ordinairement nous tenaient lieu d'entretien. Cependant, nous mangions dans un temps si différent de l'heure ordinaire des repas que je ne pus m'empêcher de lui en témoigner ma surprise. Tout ce que je compris à sa réponse fut que nous allions changer de demeure. En effet, le cacique, après être sorti et rentré plusieurs fois, vint me prendre par la main. Je me laissai conduire, en rêvant toujours à ce qui s'était passé et en cherchant à démêler si le changement de lieu n'en était pas une suite. À peine eûmes-nous passé la dernière porte de la maison, qu'il m'aida à monter un pas assez haut, et je me trouvai dans une petite chambre où l'on ne peut se tenir debout sans incommodité, où il n'y a pas assez d'espace pour marcher, mais où nous fûmes assis, fort à l'aise, le cacique, la China et moi. Ce petit endroit est agréablement meublé, une fenêtre de chaque côté l'éclaire suffisamment. Tandis que je le considérais avec surprise, et que je tâchais de deviner pourquoi D'Héterville nous enfermait si étroitement, « Oh mon cher Asa, que les prodiges sont familiers dans ce pays !» Je sentis cette machine ou cabane, je ne sais comment la nommer, je la sentis se mouvoir et changer de place. Ce mouvement me fit penser à la maison flottante. La frayeur me saisit. Le cacique, attentif à mes moindres inquiétudes, me rassura en me faisant voir par une des fenêtres que cette machine, suspendue assez près de la terre, se mouvait par un secret que je ne comprenais pas. D'Héterville me fit aussi voir plusieurs hamas, nom générique des bêtes, d'une espèce qui nous est inconnue, qui marchaient devant nous et nous traînaient après eux. Il faut, aux lumières de mes jours, un génie plus qu'humain pour inventer des choses si utiles et si singulières. Mais il faut aussi qu'il y ait dans cette nation quelques grands défauts qui modèrent sa puissance, puisqu'elle n'est pas la maîtresse du monde entier. Il y a 4 jours qu'enfermés dans cette merveilleuse machine, nous n'en sortons que la nuit pour prendre du repos dans la première habitation qui se rencontre, et je n'en sors jamais sans regret. Je te l'avoue, mon cher Asa, malgré mes tendres inquiétudes, j'ai goûté pendant ce voyage des plaisirs qui m'étaient inconnus. Renfermé dans le temple dès ma plus tendre enfance, je ne connaissais pas les beautés de l'univers. Et ce que j'ai vu, des prodiges inventés par les hommes, ne m'a point causé le ravissement que j'éprouve. Les campagnes immenses qui changent et se renouvellent sans cesse à nos regards emportent mon âme avec autant de rapidité que nous les traversons. Les yeux parcourent, embrassent et se reposent tout à la fois sur une infinité d'objets aussi variés qu'agréables. On croit ne trouver de borne à sa vue que celle du monde entier. Cette erreur nous flatte. Elle nous donne une idée satisfaisante de notre propre grandeur et semble nous rapprocher du Créateur de tant de merveilles. À la fin d'un beau jour, le ciel présente des images dont la pompe et la magnificence surpassent de beaucoup celles de la terre. Des nues transparentes, assemblées autour du soleil couchant, offrent à nos yeux des montagnes d'ombre et de lumière dont le majestueux désordre attire notre admiration jusqu'à l'oubli de nous-mêmes. Le cacique a eu la complaisance de me faire sortir tous les jours de la cabane roulante pour me laisser contempler à loisir ce qu'il me voyait admirer avec tant de satisfaction. Si les beautés du ciel et de la terre ont un attrait si puissant sur notre âme, celles des forêts, plus simples et plus touchantes, ne m'ont causé ni moins de plaisir ni moins d'étonnement. Que les bois sont délicieux, mon cher Asa. En y entrant, un charme universel se répand sur tous les sens et confond leur usage. On croit voir la fraîcheur avant de la sentir. Les différentes nuances de la couleur des feuilles adoucissent la lumière qui les pénètre et semblent frapper le sentiment aussitôt que les yeux. Une odeur agréable mais indéterminée laisse à peine discerner si elle affecte le goût ou l'odorat. L'air même, sans être aperçu, porte dans tout notre être une volupté pure qui semble nous donner un sens de plus, sans pouvoir en désigner l'organe. Oh, mon cher Asa, que ta présence embellirait des plaisirs si purs, que j'ai désiré de les partager avec toi. Témoin de mes tendres pensées, je t'aurais fait trouver dans les sentiments de mon cœur des charmes encore plus touchants que ceux des beautés de l'univers. »